Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'histoire de Michael est fascinante. Fiscaliste, avocat, juriste, pour finalement travailler au service du divin. Poussé par son intuition, sa quête de sens, Michael arrive par hasard à Auroville en Inde. L'aventure commence assez mal, peu convaincu par les premières rencontres. Et pourtant, des années plus tard, Michael est toujours là, à s'impliquer sur de nombreux projets. Rencontre délicieuse avec Michael.
Écoute, moi je suis né à Nice, dans le sud-est de la France, en 86, donc il y a 33 ans, d'un père espagnol et d'une mère allemande. Et en fait, j'ai vécu toute ma jeunesse dans le sud de la France. J'ai étudié à Aix-en-Provence. Je suis devenu là-bas avocat d'affaires, fiscaliste d'entreprise, analyste financier. J'ai fait ensuite une école de commerce. Et tout ça m'a fait en fait progresser vers Marseille, où j'ai eu mon premier emploi en tant que juriste d'entreprise et fiscaliste. J'ai très rapidement découvert que c'était pas forcément ma voie. Je m'étais juste plongé dans ces études pour faire quelque chose et avoir un diplôme, en fait, et pas vraiment avoir réfléchi au sens de ma vie à ce moment-là. Et ensuite, j'ai été engagé par GDF Suez pour travailler à Montpellier dans une filiale qui faisait de l'éolien et des panneaux solaires en tant que RH. Et donc, là, pareil, je trouvais le sujet plus intéressant, plus de sens. Mais malheureusement, le travail lui-même, c'était pas encore ma place, quoi. J'étais un peu jeune, j'avais 23 ans, j'étais extrêmement bien payé, peut-être trop bien payé pour mon âge, un poste très important déjà. J'ai eu la chance de gravir les échelons extrêmement vite et sans doute beaucoup trop vite à mon goût, d'avoir une secrétaire qui avait le double de mon âge et la moitié de mon salaire, de rencontrer les directeurs généraux de GDF Suez et même les conseillers de Sarkozy à l'époque. J'ai assisté à une réunion qui m'a beaucoup troublé à l'époque, où je me rendais bien compte qu'en fait, il y a plein de mondes qui se chevauchent dans notre société et où en fait ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut croire, ce qu'on peut penser être la direction que l'humanité prend n'est pas vraiment du goût de tout le monde dans ces différents mondes-là qui rentrent pour moi en clash et qui rentrent en conflit. Et c'est là qu'est arrivé le point où j'avais l'impression que je ne pouvais plus continuer à faire ça et qu'il me fallait trouver plus de sens dans ma vie et trouver vraiment ce qui moi pouvait me faire sentir moi-même au lieu de toujours porter un masque différent et arriver finalement à prendre place dans ces différentes, j'appellerais ça aujourd'hui des constellations, donc les entreprises, la société, les villes dans lesquelles j'ai pu être et d'arriver à être juste vraiment moi-même, quoi.
Cette notion du sens est de plus en plus prégnante aujourd'hui dans la société civile française, enfin même dans le monde, hein, cette quête de sens, quel est le sens que je donne à ma vie. Donc toi, dans cette quête de sens, cette notion de l'ailleurs était déjà là? Tu avais déjà envie de voyager, de sortir des frontières?
Alors si tu veux, je peux te raconter une sorte d'histoire en fait, parce que c'est, enfin, l'histoire qui s'est passée, c'est le récit que je donne aussi sur ma vie, en montant les moments un peu traumatisants, je dirais. C'est pas traumatisant, c'est vraiment les traumas, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais j'ai eu... J'ai eu depuis vraiment très jeune toujours des questions qui me semblaient très hors de propos dans la société où on était. Je posais toujours des questions. Je ne vais pas dire que je le sentais depuis toujours, mais il y avait juste une partie de moi qui ne comprenait pas comment une société comme ça peut fonctionner. Dans un supermarché, moi, j'ai l'impression d'être né dans un supermarché. Je pensais que les bananes poussaient en France, que les fraises poussaient en hiver, que le fruit de la passion était un fruit imaginaire, qu'il y avait des choses qui poussaient dans des conserves en métal. Et puis voir tout ce plastique, voir ces quantités d'abondance de nourriture et de plastique dans les supermarchés, il y avait quelque chose qui tournait pas rond, il y a une partie de moi qui n'arrivait pas à comprendre et qui était très dérangée par ça. Et j'ai eu ces petits moments un peu de surprise et de trauma. Donc, quand j'ai quitté ma famille pour aller faire mes études à Aix-en-Provence, je me retrouvais là à 17 ans dans un appartement vide et pas comprendre vraiment quel chemin j'étais en train de prendre. J'ai fait une crise de panique à ce moment-là, à 17 ans, où je suis sorti de l'appartement, le cœur battait à la chamade, mon esprit était bombardé par des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le sens? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Jusqu'au moment où j'ai l'impression que le seul moyen pour arrêter tout ce brouhaha dans ma tête, c'était de me jeter sous les roues d'une voiture, ce que j'ai pratiquement fait. Et au moment pratiquement de sauter sous les roues d'une voiture, j'ai réalisé la vie. Je sais pas, il y a eu d'un coup une lumière. La vie est trop précieuse pour y mettre un terme comme ça. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai tout mis sur papier. Et je me suis, euh, Je me suis dit, ok, je vais répondre à tout ça. J'ai tout mis dans un placard à un moment donné. J'ai dit, bon, je suis venu ici pour une chose, je le sais, c'est ma famille a besoin de moi. Ils ont besoin que je fasse des bonnes études, que je puisse avoir un salaire décent pour pouvoir prendre soin d'eux. Donc, c'est sur quoi je vais me concentrer. Donc, j'ai oublié toutes ces questions. Je suis par contre devenu hyper actif depuis ce jour-là. J'ai commencé à accumuler les activités, les sports, faire 3 curriculums en même temps. Et comme si j'avais planté une graine en moi que j'ai laissé pousser inconsciemment. Et c'est au moment où j'ai pris ce premier emploi que j'ai quitté au bout d'un an et demi, et là le deuxième emploi à GDF Suez. Et là je me suis dit, mais non, là il y a encore quelque chose qui manque, quoi. J'ai un vide en moi qui peut pas se remplir. C'est comme un puits sans fond, et tu achètes des choses, tu donnes une explication de qu'est-ce qui est bien, tu vois. Et je me rends compte que je m'étais dit, bah oui, tout le monde m'a toujours dit, fais les bonnes études, prends un bon boulot, bon salaire, et tu verras que tu seras heureux, quoi. Et comme j'étais un gentil garçon, que je faisais toujours ce qu'on me disait de faire, ben, j'ai fait ça. Et puis là, j'étais là, non, je suis pas heureux, je suis seul, je sens ce vide en moi, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, quoi. Et ce qui a été assez magique au cours de ma vie, c'est que j'ai eu des petits signes, enfin des gros signes même, un petit peu choquants parfois. Le premier a été assez fort, c'était quand j'étais déjà diplômé avocat d'affaires, et je savais la posture à avoir face à tel type de personne, un vrai bon caméléon. J'arrivais dans cette école de commerce à Paris, les entretiens, j'étais en costume, j'avais les cheveux courts à l'époque, je venais passer chez le coiffeur, je m'étais fait les ongles, enfin, et j'étais vraiment en posture, voilà, je suis un homme d'affaires et je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et un entretien extraordinaire qui s'est passé avec toutes les conditions de stress que tu veux, qui nous ont pu nous poser, d'avoir une heure pour étudier un document en anglais sur la crise financière, au bout de 20 minutes, pour nous donner un petit condition de stress, nous pousser dans la salle avec les jurys et de devoir parler du document. Un jury composé pour moi de personnes assez importantes, c'était quand même le directeur général de France Télécom, le directeur RH, ressources humaines de Peugeot, et la directrice marketing de Coca-Cola France, en face de moi, et me dire, ok, voilà, c'est parti, il me demande de parler de moi, sans prévenir, il switch en anglais, et ensuite, Anna avait quelques mots en allemand, elle avait vu mon CV, donc elle me parle en allemand, ensuite en espagnol, et je répondais au tac, j'étais prêt, j'étais vraiment formaté pour ça, j'avais été formé pour ça, j'avais une réponse à toutes les questions, et je savais, j'avais vu leur tête, je voyais que je les avais quand même impressionnés, et là arrive la question finale, je n'attendais pas du tout, me demander avant de partir, pourriez-vous nous donner la personnalité morte ou vivante que vous admirez le plus? Moi, je suis là, j'avais fait déjà des références, que je savais que c'est le genre de choses qu'ils aimaient bien. J'ai plein de références de plein de gens. Là, je dis, bon, Barack Obama, à ce moment-là, c'était un peu trop facile, peut-être tout le monde allait le dire. Politique française, je me suis dit, rien de pire pour les diviser. Et là, dans ma tête, je voulais parler de Mohamed Younous. Et là, je cherche le terme. Je crois que j'avais Mohamed, mais pas Younous. Alors, je cherche. Et là, d'un coup, il y a des mots qui sont sortis de ma bouche. Mais alors, ils sont sortis comme ça. D'un coup, c'était Edith Piaf. Et même moi, à un moment, j'ai fait, ils m'ont dit quoi? Genre, vraiment tous surpris dans la salle. Moi, je regarde derrière moi, je me disais, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est pas moi, quoi. Et là, je me dis, mais merde, c'est moi qui ai dit ça. C'est sorti de ma bouche, quoi. Il y a vraiment Edith Piaf qui est sorti comme ça. J'ai dit, merde. Ils l'ont entendu, je l'ai entendu. Bon, bah, ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, on va essayer de gérer la situation, quoi. Et là, je t'ai parlé de Edith Piaf, l'entrepreneur, n'importe quoi. Alors là, c'était un vrai gros délire. Je suis là, oui, cette femme qui est partie de rien et qui changea le monde par sa voix. Je sais pas d'où m'est sortie cette phrase, j'étais comme ça. Je suis là, ouais, elle a changé le cœur des hommes et puis elle a monté un empire. Mais plus j'en disais, plus je m'écrasais dans ma chaise, tu vois. J'avais ma chemise rose, un rose très bien sélectionné, tu vois. Mes problèmes, c'est que ma transpiration faisait que ça tournait au rouge. Ma tête était complètement rouge, mon pouls dans mes tempes. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et puis je voyais la tête, surtout du jury, quoi, les yeux qui commencent à écarquiller, qui disent, qu'est-ce que ce mec est en train de nous faire? Mais c'est quoi ce délire? Oh, et là, du coup, je finis. Et là, il regarde son papier, monsieur. Et là, il me dit, bah écoutez, on vous appelle. Ok, vous pouvez sortir. Allez-y, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, sortez. Oh, monsieur, je fais merde. Je suis sorti et j'étais dans une autre planète. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et un an et demi après, je me retrouve à Montpellier, dans ma boîte, et c'est là que déjà je commence à me poser des questions. J'avais un mentor absolument extraordinaire qui m'avait présenté à son propre mentor et qui m'avait dit, bon Mika, je comprends que peut-être ça t'aille pas, bah écoute, il faut que tu réfléchisses à d'autres façons peut-être d'envisager ta vie, peut-être de l'entrepreneuriat, monte ta propre boîte et tout. Et je me posais plein de questions et je me disais, non, mais tout ça, ça fait vraiment pas de sens, quoi. Et là, je fais un trip psychédélique, un truc qu'on sait que beaucoup de gens utilisent parfois pour trouver un peu de sens. Moi, c'était de la salvia divinorium. J'ai pris ça et en fait, c'est une herbe qui te permet de, voilà, flotter, voyager pendant au moins 15 minutes, quoi. Et alors ces 15 minutes là ont eu l'impression d'être des heures et des heures, un voyage. Je fais donc la session, j'aspire la fumée, et là je me retrouve littéralement assis devant un ordinateur, je suis dans un immeuble, je regardais un peu autour de moi, et très rapidement, j'entendais toutes mes pensées, je voyais tout ce qui se passait. J'étais à mon bureau, j'étais plus qu'avocat, j'étais devenu businessman. À peu près 10 ans plus tard, donc j'avais 30-35 ans, j'étais à Shanghai, 24e étage de cet immeuble. Donc je voyais toute la ville de Shanghai de nuit. Et là, je voyais presque minuit, je suis en train de finir le travail. Donc je suis là en train de clôturer, fermer l'ordinateur. Je sors, je vois un énorme open space, qui était donc mon open space, avec au moins une cinquantaine de postes de travail. Donc tout le monde était évidemment bien rentré chez eux. L'ascenseur juste à côté de mon bureau, je descends. Voiture clean, c'est genre une berline. Alors, c'est pas un truc trop fancy, trop classe. Juste classe, bien propre sur soi. Tu vois, une belle voiture, je pense que c'était une BMW. Je prends la voiture, je sors. Et là, je commence à rouler. Je vois en fait la taille des immeubles se réduire et commence à avoir un peu plus de verdure.
Toujours dans ton trip de Salvia Divinorum, là.
Je suis là-dedans et je vois, j'ai une vie à Shanghai. J'arrive devant un portail gigantesque qui fait 30 mètres de haut, avec un gardien à l'entrée qui ouvre, qui me connaît, je fais un petit signe. J'avance et en fait, je suis dans une énorme résidence de villas. Donc il y a plein de villas, il y a plusieurs rues. Moi, je suis dans la rue principale. Et là, un moment extraordinaire, je sors de la voiture et je claque la porte vraiment doucement. Et je me dis dans ma tête, attention, il ne faut pas que je réveille les enfants. Et là, celui-là, what the fuck, j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est là que j'ai décidé, à un moment donné, dans mon trip, de reprendre action sur mon corps, parce que j'ai vu quelque chose, mon intuition m'a dit, il faut que tu ailles voir ce qui se passe sur la cheminée. Et donc, je pousse mon corps. Et donc, en mode, comme dans un film, quoi, je suis en train de pousser mon corps, je vois bien que mon corps et la personne qui l'incarne, et là, se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon corps fait? Je me retrouve à quatre pattes sur le sol, un superbe tapis persan. Et là, je me débat, j'arrive à un moment donné à accrocher le haut de la cheminée, je me tire, et là, je vois une photo de famille, et la photo de famille, c'est moi. Moi, ma femme, mes deux enfants, et le labrador. Et pour moi, le symbole de ça, quand je me suis réveillé après ce petit trip, qui a duré vraiment 15-20 minutes, mais qui m'en aurait dit une vie, et c'est en se réveillant de ça que je me suis dit, ok, demain, je démissionne, c'est décidé. Je viens, j'en parle à mon mentor et tout ça, je lui parle même de ça parce que j'étais vraiment dans une relation vraiment intime, on parlait de beaucoup de choses de ce genre-là. Et le plus extraordinaire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment du départ, j'étais à Paris. Je me souviendrai de ça toute ma vie, quoi. J'étais chez mon meilleur ami qui m'avait laissé son appartement. Donc le moment du départ arrive, moi c'est l'aventure, j'ai juste mon sac à dos, ma valise, je sais absolument pas où je vais aller, je sais que je vais aller en Inde. Et je quitte l'appartement de mon ami, donc je claque la porte. Je suis dans la petite ruelle, j'ai une petite ruelle qui monte vers le métro. Et là, il y a une femme qui me court devant. Et donc, je la vois juste venir dessus. Je voyais bien qu'elle était pressée. Donc, en fait, je me dis, je vais juste la laisser passer. Donc, je m'écarte. Je laisse passer la femme. Et là, alors, aucune raison. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à regarder en face de moi, en m'écartant. Et là, je vois au-dessus de la porte, inscrit dans le mur, ici est née Edith Piaf, celle qui changea le monde par sa voix. Et là, mais alors, je suis resté figé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris une photo. C'est la première photo de mon voyage. En me disant, bah ouais. C'est ça, c'est Edith Piaf qui m'a sauvé la vie, c'est Edith Piaf qui me dit encore une fois, c'est ça, ça c'est ton chemin. C'est là que tu vas, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est justement ta liberté, quoi.
Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Une rupture dans ton travail suite à un trip sous Salvia Divinorum, tu comprends finalement que le sens que tu cherches, tu n'as peut-être pas forcément le trouver dans ta vie professionnelle là-bas en France, donc tu choisis de tout lâcher pour partir avec ton sac à dos pendant plusieurs mois. Direction l'Asie, là on se rencontre aujourd'hui sur le toit de la Solar Kitchen à Auroville. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cet endroit avant de partir avec ton sac à dos?
Absolument pas. Quand j'ai atterri à Chennai, moment traumatisant pour moi, ça y est, c'est la vraie Inde, c'est là la désolation, la pauvreté, etc. J'ai trouvé un compagnon de voyage à ce moment-là et ensemble on est allé à Pondichéry et c'est là, juste, je crois que c'est Lonely Planet ou le guide du Rotar qui disait, oh tiens, juste à côté de Pondichéry, une ville expérimentale. Nous on s'est dit, bon ok, on va voir quoi. Et c'est là que l'aventure a commencé. Par contre, elle n'a pas commencé super bien, hein, je dois le dire. Moi, 5 jours ici, j'ai cru que c'était vraiment une secte et j'ai vraiment détesté le lieu. Hein. Néo-colonialiste, secte, tout ce que tu veux, bon, focaliser sur l'argent, mode détaxation, etc., tout ce que tu veux. 5 jours, vraiment, j'ai pas eu le meilleur visage d'Auroville, quoi.
Donc la première fois, t'es resté que 5 jours sur tes 9 mois de voyage. T'es arrivé assez rapidement ici dans le sud de l'Inde, à Auroville, mais t'y es pas resté.
J'ai fait 5 jours dans cette guest house, comme ils appellent ça ici, cet hôtel dans Auroville. Mais non, au lieu de partir, en fait, j'étais sur ce site qui s'appelle Couchsurfing, où j'ai trouvé finalement juste avant, au moment du départ, j'ai vu que quelqu'un m'avait répondu. Je me suis dit, bon, allez, ok, on va peut-être lui donner une chance. Et c'était drôle, j'ai pris ma petite mobilette et le problème c'est que ce monsieur qui m'accueillait était en pleine forêt eurovillienne et vraiment que par les petits chemins que tu peux accéder que en moto ou en vélo et je me suis complètement perdu dans la forêt, je suis tombé en panne d'essence, j'ai plus eu d'essence pour trouver sa maison et on aurait dit que jusqu'à la dernière minute je suis allé chercher de l'essence chez quelqu'un, je voyais un portail, une grande maison. Un monsieur Tamoul m'ouvre la porte, je me rends compte que c'est un domestique, je vois 10 domestiques dans le jardin en train de faire le jardin de cette dame qui est donc appelée par le domestique pour me donner de l'essence et je vois cette dame un peu âgée, les cheveux blancs, tout de lin vêtu blanc qui descend les escaliers en disant c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, et le monsieur qui explique que c'était pour me donner un peu d'essence, elle me dit donne-lui l'essence mais ne me dérangez plus, genre vraiment cet air hautain et arrogant. Et là, je me suis dit, non, mais vraiment, sérieux, c'est quoi ce lieu, c'est quoi ce délire? Je prends ma mopette et je me casse, quoi. Et donc, j'ai pris ma mopette, je me suis barré. Et en fait, sur le chemin, ça faisait déjà 2 heures que je cherchais le type me retrouve sur le chemin. Et il me dit, mais c'est toi, Mickaël? Oui, c'est toi, Martanda. Et il me dit, bah écoute, tu veux quand même venir? Je fais, bon, maintenant que t'es là, bah ouais, ok, je vais te suivre, je vais aller chez toi, quoi. Et là, histoire incroyable, c'était un jeune garçon français et tamoul, père tamoul et une mère française, qui est né à Auroville et qui m'a accueilli chez lui pendant 2 semaines. Et qui m'a montré le vrai visage d'Auroville. Et c'est ce visage qui m'a fait rester ces 9 dernières années, en fait.
Et sur ce voyage qui a duré 9 mois, donc tu as déjà passé pas mal de temps ici, ou est-ce que tu avais quand même continué l'itinéraire pour découvrir d'autres parties de l'Asie ?
J'étais très cartésien et très, très rationnel dans ma tête. Je me suis dit, bon, allez, 2 semaines, c'était sympa. J'ai planté des arbres et tout, mais on va pas s'arrêter à la première expérience un peu sympa que je trouve sur mon chemin. Si je l'ai trouvé si vite, c'est qu'il y en a peut-être plein d'autres encore à trouver. Donc, en fait, non, en effet, pendant mon premier voyage de 9 mois, j'ai décidé de continuer ma route après Auroville. Donc, 2 semaines plus 5 jours à Auroville, j'ai continué à voyager et je me suis rendu compte en fait qu'au bout de 6 mois, j'ai rien trouvé tel qu'Auroville en fait. Et donc après 6 mois, j'ai recontacté Auroville et je leur ai dit que je désirais revenir et être volontaire pendant 1 an. Donc après, j'ai fini mes trois derniers mois de voyage en Thaïlande et je suis rentré en France et là, j'ai pris mon visa pour revenir.
Excellent. Donc en fait, tu t'es promis un peu à une carrière brillante. Hein. Tu as fait des études, t'as réussi brillamment tes entretiens d'embauche, tu bossais pour des grandes compagnies. Donc toutes les portes de l'illusion étaient ouvertes pour toi. Tu allais gagner de l'argent, tu allais pouvoir t'acheter ton appartement à Shanghai et ton Labrador. Mais bon, non, tu as choisi plutôt de vivre ici, à Auroville, où cette notion avec l'argent est bien différente de ce que tu as pu vivre en France, où là, bah, il n'est pas question de capitaliser.
Tout à fait, ouais, complètement. Je crois que c'est pour ça, quand je me disais même, j'ai atteint les sphères, même les plus hautes sphères d'autorité, quand je vois que je pouvais parler à 2 des 4 conseillers de Sarkozy, à cette réunion insensée à laquelle je n'avais même pas compris comment j'avais pu être propulsé là, et me dire que ça faisait non, quoi, que je ne pouvais pas appartenir à ce monde, j'avais l'impression de devoir vendre mon âme pour pouvoir accéder à ça, et on me disait que c'était ça le succès. Alors je disais, moi, je ne vois pas du tout le succès, et aujourd'hui, en effet, j'ai pas d'argent, mais j'en ai pas besoin, et c'est drôle, à un moment donné, j'avais même cette réflexion de me dire que c'est que quand tu as de l'argent que tu as des problèmes d'argent, en fait, vraiment, quoi. Et l'argent attire ces mêmes problèmes-là. Et moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours été assez clair, par contre, sur mes objectifs et sur mes besoins. Je ne voulais pas gagner d'argent, par contre, je ne voulais pas en perdre. Et en fait, depuis pratiquement que je suis ici, je n'ai jamais vraiment dépensé d'argent. Je n'en ai jamais gagné, mais on m'a toujours couvert en fait, mes dépenses. Après, je suis plutôt ingénieux, je trouve toujours des bons systèmes pour compenser toutes les dépenses que je peux avoir sur place. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un système assez intéressant qui est des massages. En fait, je pratique le massage depuis l'âge de 19 ans et je l'ai beaucoup amélioré, beaucoup appris ici en Inde, qui est quand même un des pays où tu peux vraiment avoir une culture du massage. Et j'ai donc un massage par jour, 7 massages par semaine, toujours les mêmes personnes à qui en fait je demande de prendre en charge une de mes dépenses. J'ai 7 types de dépenses et selon leur capacité, en fait, ils ont décidé à un moment donné de prendre en charge soit mon logement, soit ma contribution à Auroville, soit mes déjeuners, soit mes petits déjeuners, mes dîners, ma moto, des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je ne touche plus l'argent, c'est un sentiment absolument extraordinaire, en plus en tant que fiscaliste et analyste financier. J'étais toujours vraiment à regarder, à bien monitorer toutes mes dépenses, regarder est-ce que je suis toujours en équilibre et tout. Là, je le sais. Je sais exactement combien j'ai à débourser quand je vis ici. Et les gens à qui je donne des massages prennent en charge mes dépenses, donc je ne regarde plus mes comptes et c'est un sentiment extraordinaire. Ça fait maintenant 3 ans, je mets un peu de temps à élaborer ce système, mais ça fait 3 ans que je ne regarde plus mes comptes et que mes comptes sont toujours en équilibre, quoi. Et en fait, je ne touche plus l'argent, je n'ai plus à me soucier de ça et je me suis libéré de ça. C'est une énergie que j'ai libérée. Et c'est absolument extraordinaire quand tu arrives à ça. Les premières années, j'avais pas assez confiance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé les étés et pendant un an aussi en France, j'ai accumulé les petits boulots pour mettre suffisamment de côté, selon mes calculs, voir les dépenses que j'aurais dû assumer ici sur Euroville. Et donc, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 29 ans. Et à 29 ans, le jour de mes 29 ans, en septembre de cette année, je me suis mis à la retraite du travail alimentaire. C'est comme ça que je l'ai annoncé. Je n'ai plus besoin de travailler pour vivre. J'avais mis assez de côté en me disant bon, c'est bon, je rentre à Auroville et je pourrais couvrir toutes mes dépenses sans avoir à me soucier de ça. Chose extraordinaire, c'est que comme je me suis détaché de cette peur de ne pas avoir assez d'argent, quand je suis arrivé à Auroville, je n'ai jamais même touché cet argent depuis que je suis revenu à Auroville. Et en fait, maintenant je ne fais que ce qui fait vraiment du sens pour moi, sans me soucier de l'argent que ça va me rapporter et si ça va couvrir mes dépenses ou pas, ou si, ou ça. Non, tout ce que je fais, les massages, j'adore faire des massages, ça me procure un bien-être gigantesque. Les gens semblent apprécier mes massages et ça semble leur donner du bien-être. Bon, parfait quoi, je vois pas mieux, c'est absolument génial. Et donc je passe tout mon temps à faire des choses qui me plaisent et qui font vraiment du sens, à aider les autres tout en m'aidant moi avec des projets qui pour moi vont m'aider moi à évoluer dans ma vie ici et qui vont pouvoir en même temps aider les gens à évoluer.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Auroville, donc cette ville qui est au sud de l'Inde, près de Pondichéry, on en a un tout petit peu parlé dans ton premier voyage où tu as découvert cet endroit. Les 5 premiers jours n'étaient pas forcément les plus intéressants que tu aies pu vivre, mais tu as fait le choix de rester là. Qu'est-ce que c'est Auroville? Comment tu le racontes? Comment tu le présentes à ceux qui ne connaissent pas cet endroit?
Alors moi je dirais, pour commencer, Auroville, si n'importe qui Google Auroville, trouvera tout et n'importe quoi, tout et son opposé. C'est une secte, c'est pas une secte, c'est un lieu magique, c'est un lieu horrible. Pour moi Auroville, c'est ce que tu crées. C'est ce que tu crées toi, c'est ce que tu vois toi du monde. Et en fait, c'est une ville qui s'est créée en 68 sur les fondements très spirituels, fondements de non-possession, pas de propriété privée, une ville qui appartient au monde et à l'humanité entière. C'est un endroit où les gens, avec des idéaux d'une société différente, une société nouvelle et plus équilibrée et plus en égalité avec les autres nationalités, avec toutes les personnes qui y vivent, peuvent essayer de le manifester ici. Et c'est vraiment le terme, essayer de le manifester. Auroville, c'est pas l'idéal. Elle n'a pas réussi à atteindre tous les idéaux qu'elle s'est promis de faire. Elle le fera peut-être un jour, mais moi je pense que ce qui compte le plus, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie qu'on trouve ici en Inde, c'est de dire c'est pas tant l'objectif qui compte, c'est vraiment le chemin pour arriver à cet objectif. Et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, Auroville en fait est classée ou catégorisée comme une communauté d'intention. L'intention qui est ici, c'est de créer l'unité humaine. Donc, au-delà de nos différences, au-delà de nos nationalités, au-delà de notre richesse, on est tous humains et on peut tous s'unir pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Et ça, je le vois. Moi, j'arrive à le voir aujourd'hui. J'ai découvert une nouvelle famille ici. J'ai perdu beaucoup de ma famille. Moi, j'ai eu beaucoup de drames dans ma famille. J'ai perdu ma mère il y a peu de temps. J'ai perdu mon père également il y a quelques années. J'ai plus grand monde en fait dans ma famille et je sais que j'ai pu vivre ces expériences de perte de manière beaucoup plus facile parce qu'ici, j'ai trouvé une seconde famille. Et il y a ce sentiment-là ici. On est une communauté. On est tout le temps en train de se disputer, tout le temps en train de se mettre sur la gueule. On est toujours en train de galérer pour tout faire, mais pourtant, on est toujours là. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai étudié le volontariat ici. J'en ai fait une thèse où j'ai essayé de comprendre comment se fait-il que moi, ayant travaillé en tant qu'RH en France pour des gens qui sont payés pour travailler, j'ai le sentiment qu'ils ont moins de joie que ceux qui sont ici et qui sont pratiquement en train de payer pour travailler. Les volontaires payent ici pour travailler, ils payent leur logement, ils payent leur nourriture et en plus ils travaillent. Et ils ont une joie et une plénitude. C'est moi, quand j'ai fait cette thèse, j'ai pu déterminer que c'était principalement, c'est pas la seule raison, mais une des raisons principales de cette joie, c'est en fait d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui va au-delà de nous, au-delà de notre ego, au-delà de nos intérêts personnels. On est là vraiment pour travailler pour une cause qui est celle de l'humanité tout entière. Et même si, oui, ça marche pas, il y a plein de choses qui vont pas à Auroville, mais l'intention est là, quoi. On essaye, on fait du mieux qu'on peut, considérant la condition humaine. On a tous nos travers, on a tous nos défauts, Mais pourtant, on est encore là aujourd'hui, quoi. Et moi, je le vois et j'admire les pionniers qui sont là depuis 50 ans et qui voient que bah non, ça marche pas, c'est pas parfait, bah pourtant ils sont encore là, quoi. Ils ont quand même réussi à faire pousser une forêt au milieu du désert. Ils ont réussi à faire en sorte, en fait, qu'au-delà même des frontières d'Auroville, des arbres aient poussé, qu'on ait pu canaliser l'eau, qu'on ait pu encore avoir de l'eau ici, alors que ça aurait dû déjà faire plusieurs dizaines d'années que l'eau aurait pu disparaître d'ici. De voir, en fait, ces villages qui prospèrent quand même autour de nous. Alors oui, il y a des tensions avec les villages, oui, il y a des tensions avec les Tamouls, mais on essaye, on est toujours là à essayer. Et moi, je pense que c'est quelque chose que je trouve toujours beau d'avoir cette réflexion et de prendre le recul sur les choses en disant « oui, personne n'est parfait ». Dites-nous si vous trouvez un lieu parfait dans le monde, parce que moi, j'en connais pas, mais au moins ici, on y aspire, quoi.
Avec cette notion d'unité humaine.
L'unité humaine, c'est vraiment, si on devait résumer Auroville, c'est vraiment ça, c'est une ville pour l'unité humaine. Cette ville dont la Terre a besoin pour créer cette unité, pour réunir les gens autour de ce qu'ils sont vraiment, tous des humains, quoi. Avant la couleur de peau, avant le portefeuille, avant l'intellect. On est tous humains, quoi. Et on peut tous travailler ensemble.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Si tu veux, moi, l'Inde, je pense que l'Inde et Auroville ont été un vrai choc ou un vrai réveil pour moi. En fait, c'est que quand j'étais en France et que j'étais fiscaliste d'entreprise, que j'étais analyste financier, tout ça, j'étais vraiment dans une bulle, j'étais vraiment formaté d'une telle manière qu'en fait, je m'en rendais même pas compte. Tu vois, tout ce qui était organique pour moi, c'était du vent, quoi. C'était juste une nouvelle façon de faire du commerce, de donner un nouveau label un peu joli. Tout ce qui était bio, les labels et tout ça. Et moi, vraiment, ça faisait pas de sens. Et pour moi, c'était. Je voyais les clochards dehors, je me disais, bah non, les gars, réveillez-vous, quoi. Levez-vous, trouvez-vous un boulot, c'est comme ça que vous survivrez. Et ne demandez pas de l'aide aux gens, quoi. La charité, ça me fait vraiment. Ça me dépassait, l'humanitaire également. Je me disais, non, c'est pas comme ça, il faut se lever, c'est dur. Moi, j'ai galéré, j'avais pas forcément les capacités toujours d'étudier, d'avoir les diplômes que j'ai obtenus. Je partais déjà avec un handicap. Et j'étais vraiment formaté là-dedans. Il faut se battre pour pouvoir survivre dans cette société. Et c'est en venant ici que ça m'a juste ouvert les yeux, et ouvert les yeux sur un autre monde, une autre façon de voir le monde, une nouvelle perspective. Et je suis vraiment, encore une fois, admiratif de ceux qui ont réussi à ouvrir les yeux en France même dans nos sociétés actuelles. Et aujourd'hui, quand je reviens en France, je suis agréablement surpris de voir ce qui se passe, les mouvements qui sont en train de se passer. Je me rends compte que c'est très dur, c'est très long de faire d'imprégner le changement en France et dans la plupart des pays occidentaux. Alors ce que je considère, moi, c'est d'être plutôt comme une sorte de chercheur, et c'est comme ça qu'est considéré Auroville aussi, un laboratoire d'évolution. Et moi, je fais mes recherches ici, mes expérimentations, j'ai plein d'idées, et j'en vois bien que plusieurs de mes idées, en fait, n'étaient pas tout à fait bonnes ou tout à fait justes ou appropriées. Et du coup, je continue à expérimenter et ensuite j'apporte le fruit de mes résultats là-bas en France, auprès des gens que maintenant avec lesquels je me suis mis en connexion, beaucoup de réseaux dans les gens qui sont dans l'alternative. J'ai eu la grande surprise de me rendre compte aussi que c'est la plupart des capitales européennes qui sont en fait le vivier des plupart des innovations sociales. Parce que finalement, c'est là où tu es le plus proche aussi de ce monde capitaliste qui est peut-être pas si innovateur que ça en termes en termes sociaux. Ben c'est justement peut-être parce que c'est là on est arrivé à un extrême que l'autre extrême peut être là aussi pour rééquilibrer. Donc moi, je vois des innovations sociales absolument extraordinaires. Et souvent, ils démarrent sans avoir même su comment faire. Et du coup, nous, on vient même, comme je vais appeler ça, consultant, mais on est là juste pour aider et pour dire, ben voilà, nous, on a essayé ça. Essayez ces outils-là, on les a développés. Ils ont marché dans notre contexte. Essayons maintenant de les adapter à votre contexte. Donc moi, je me vois encore, et c'est toujours comme ça que je me suis vu, de contribuer, en particulier la France, parce que c'est ce pays qui m'a vu naître. J'ai envie de revenir et j'ai envie de partager vraiment tout ce que j'ai réussi à découvrir, à obtenir ici à Auroville. Donc Auroville, c'est mon terrain de recherche, c'est mon bac à sable où j'essaye. Et j'essaye plein de choses et j'espère qu'elles aboutiront, quoi.
Donc il y a vraiment des ponts qui sont possibles entre ici et la France, des initiatives ou des choses qui se mettent en place, des projets qui prennent, qu'on peut après transposer en France.
Mais si tu veux, si tu lis la charte d'Auroville, je conseille à tous les auditeurs de la lire, c'est ce à quoi on aspire. Encore une fois, on n'est peut-être pas toujours à la hauteur, mais on aspire, c'est un des points de la charte, à être ce pont entre le passé et le futur, mais aussi entre l'Occident et l'Orient. Et ce pont pour toutes ces recherches matérielles et spirituelles, et de comment rallier en fait ces deux choses en même temps. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose de fort qui a disparu en Europe, c'est ce lien au spirituel. Je ne parle pas forcément du religieux, le religieux fait partie du spirituel, bon, il y a tous ces dogmes, etc. qu'on connaît, mais je vois que les gens se sont éloignés du religieux et en fait, par la même occasion, sont aussi éloignés du spirituel. Et le spirituel, c'est rien d'autre que mettre le sens. Moi, du moment que tu te poses la question, qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de ma vie? C'est du spirituel. Il n'y a rien, de magique là-dedans, il n'y a rien de mystique, il ne faut pas confondre le mystique et le spirituel. Et c'est l'idée aussi de cette ville de faire en fait le lien entre la matière et le spirituel. Une matière sans spirituel, c'est sec, c'est rien, c'est vide de sens. Un spirituel sans matière, pareil, c'est juste être dans, là-haut, dans le ciel, on est décollé de la matière, on n'agit plus sur ce qui nous environne. Essayer de faire le lien entre les deux, ramener le spirituel dans la matière et la matière dans le spirituel. Et je pense que c'est ça aussi dont l'Europe a besoin ou dont l'Occident a besoin, c'est de se remettre à croire en fait, se remettre à avoir de la foi. Et de la foi, pas forcément en Dieu, mais en quelque chose qui est au-delà de nous. Donc c'est encore une fois, je reviens sur ce truc, de se dire, je travaille pour une cause qui me dépasse. Je ne sais pas ce qu'elle est en fait. Je ne peux pas la toucher, je ne peux pas l'identifier, je ne peux pas la dessiner. Mais je sais qu'elle est là, elle est présente quoi.
Avec cette notion de remettre vraiment le sens au cœur de nos vies.
Exactement, le sens au cœur de nos vies quoi. Pour moi c'est peut-être ça la notion spirituelle. C'est un sens, quelque chose qui fasse du sens pour nous, mais qui fasse aussi du sens pour les autres. Donc de ne pas juste se remettre dans sa propre bulle individuelle. Et ça, l'individualisme, c'est quelque chose qui impacte énormément nos sociétés. Et on le connaît aussi à Auroville, hein, on n'en est pas du tout détaché. Mais on essaye d'aspirer à aller plus loin que ça et d'essayer de comment aussi introduire plus de collectifs. Comment peut-on commencer aussi à penser aux autres sans s'oublier aussi? Et ça, c'est encore un autre extrême qu'il faut éviter de toucher.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.